franceinter.fr.
Bonjour Sarah Lévine.
Bonjour.
Vous avez eu recours à la GPA en vous rendant aux États-Unis où Aimée Melton s'est portée candidate donc pour porter votre enfant et vous raconter ensemble cette aventure dans un livre intitulé « Lorsqu'on n'a que l'amour » qui est publié chez Flammarion. Alors vous êtes vous-même américaine, vous vivez en France maintenant depuis 10 ans et vous êtes la maman de deux enfants, nés donc tous les deux grâce à la gestation pour autrui. Vous avez souhaité témoigner de votre expérience dans un pays comme le nôtre qui est opposé à cette pratique, hein.
Je pense que c'est important pour voir un vrai cas, comment ça se passe dans la vraie vie, mm-hmm. pour ensuite avoir un avis informé. Parce que ouais. je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont un avis sans beaucoup d'informations.
Et vous avez voulu donner une autre facette de la GPA aussi, en profiter pour répondre à certaines idées reçues ici en France.
C'était plus pour avoir la transparence, pour montrer notre expérience, moi de mon côté, tout ce que j'ai vécu, pourquoi je suis arrivée là. Mm-hmm. Et puis Aimée, la mère porteuse de mon fils, pour qu'elle explique dans ses propres mots pourquoi, quelles sont ses motivations et comment elle a vécu ça.
Ouais.
Et ensuite, les gens peuvent prendre les avis qu'ils veulent, est-ce que c'est bien passé, est-ce que c'est éthique et tout cela. Mais basé sur un vrai cas, comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que la majorité des gestations pour autrui qui se passent pour les couples français se passent plutôt aux États-Unis ou au Canada, plutôt dans les mêmes conditions que le nôtre.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de famille aussi?
Ah, c'est sûr. C'est surtout une histoire de l'amour qui est la base d'une famille. Et puis que Aimée, qui adore être mère, a voulu donner cette possibilité à une autre femme.
Alors c'est ça qui est étonnant, c'est parce que vous donnez une place très particulière à la mère porteuse dans ce témoignage. C'est-à-dire qu'elle existe, il n'y a pas d'anonymat. C'est loin d'être un ventre porteur uniquement. C'est une personne à part entière que vous fréquentez encore, que vos enfants connaissent.
Ouais, pour moi, c'est devenu comme une autre sœur. Et moi, je ne peux pas imaginer vivre une telle expérience sans créer ce type de lien. Mais c'est clair que ça aussi, ça fait partie de nos personnalités, de nos conditions. Mais aussi, c'était pour nous très important d'avoir quelqu'un avec lequel on voyait un avenir dans l'histoire de notre famille.
Et ça... pas seulement après l'accouchement. Hein.
Exact. Et il y a une chose que dans le monde de la gestation pour autrui, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés en anglais comme en français pour essayer de garder le mot « mère » que pour la femme commanditaire, si on veut, la mère d'intention, on dit souvent.
Oui.
Et puis, on dit que la femme qui porte l'enfant, on appelle souvent la gestatrice, parce qu'en général, les gens qui sont impliqués dans le débat de GPA, gestation pour autrui, ne veulent pas utiliser le mot mère porteuse. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout qu'elle soit mère porteuse, parce qu'elle est surtout, elle est maman. Elle est une mère. Et elle a porté mon enfant avec un geste d'amour. Et je n'ai pas besoin d'enlever sa maternité pour le garder uniquement pour moi.
Mais
parce que
s'il
n'y avait pas ça, je ne serais pas maman.
Mais il y a trois parents alors autour de vos enfants ou pas?
Non, il y a deux parents. C'est mon mari et moi sont mes parents, point barre. Mais Aimée, c'est quelqu'un qui lui a mis au monde et qui lui a gardé pour nous et donné beaucoup d'amour et de son corps pour le grandir pour les premiers 9 mois.
Oui. C'est la mère porteuse de votre garçon?
Oui.
Donc c'est l'aîné de la famille. Et comment il parle de cette mère porteuse?
Bon, il l'appelle Aimée, mais du même façon qu'il appelle toutes les tantes et tous les oncles par leur prénom. Donc, elle n'a pas un statut différent que ma sœur, par exemple, qui est sa tante. Mais pour lui, c'est quelqu'un qui est parti de sa famille. Je pense que si on lui disait qu'elle n'était pas partie de la famille, ça, il ne comprendrait pas.
Donc, il connaît toute l'histoire.
Ah, il connaît toute
l'histoire. Il a quel âge exactement maintenant?
3 ans et demi.
Oui, c'est ça.
Et elle peut expliquer son histoire à quelqu'un d'autre. Elle dit « le ventre de maman est cassé et Aimée m'a mis dans son ventre.
Oui. »
Point barre.
Donc pour lui, c'est normal?
Pour lui, c'est normal.
Oui. Comment vous avez eu recours à cette méthode de procréation au départ? Qu'est-ce qui vous a amené à cela?
Oui, bon, ce n'était pas le premier choix. Je pense qu'il n'y a personne qui arrive là en premier lieu. Mm-hmm. Donc moi et mon mari, on était dans un parcours procréation médicale assistée assez classique. On a fait les inséminations, ça n'a pas marché. J'ai eu une fausse couche, on a fait une FIV ici en France et j'ai eu une grossesse extra-utérine. un autre FIV qui n'a pas abouti. Et puis, mon médecin français m'avait dit un jour, parce que je disais que je partais pour les vacances aux États-Unis voir ma famille, il dit « Oui, en quelle ville ?» J'ai dit « Denver ». Et il a dit « Ah, la meilleure clinique de fertilité dans le monde est là ». Donc, si ça ne marche pas, c'est que la procédure qu'on était en train de faire, il dit « Si ça ne marche pas, faut que vous rendez là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils font ». Bon, ça n'a pas marché. Quelques mois plus tard, je suis revenue le voir. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dites que c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en France? Et là, j'ai compris que la technologie américaine était beaucoup plus poussée que la technologie française, pour plusieurs raisons. Dès que je pouvais, j'ai mis un rendez-vous aux États-Unis pour commencer à faire un FIV aux États-Unis. Lors du process de ce FIV aux États-Unis, ils ont découvert un cancer de l'endomètre. Donc là, les options se fermaient rapidement en termes d'avoir un enfant. J'avais aussi presque 40 ans. Et quand j'ai vu les traitements pour le cancer, j'ai su assez rapidement que c'était un stade débutante et que les chances de survie étaient très, très élevées. Mais qu'une gestation fortuite était une des possibilités pour toujours être en quête d'un enfant.
Et donc, c'est comme ça que vous avez rencontré Amy?
Et donc, moi, j'ai su que j'avais besoin d'avoir une mère porteuse pour avoir un enfant. Et c'est ma soeur qui est sage-femme, qui avait une autre sage-femme avec laquelle elle travaillait, qui avait évoqué qu'elle voulait être mère porteuse. Donc, elle nous a mis en contact. Et donc, on n'a pas dû passer par une agence, ce qui est usuel. On a passé par... pour moi, c'était une inconnue, mais c'était connu de quelqu'un de ma famille. Donc, c'était quand même un soulagement assez important.
Ouais. En France, beaucoup de gens sont très frileux, évidemment, autour de la GPA. Comment réagissent les gens lorsque vous racontez votre histoire ici avec beaucoup de liberté, on le voit?
C'est pas la première chose que j'ai dit à quelqu'un quand je le rencontre, mais en même temps, je le cache pas et c'est assez rapidement que j'en parle. On n'a jamais eu, ni moi ni mon mari, on n'a jamais eu une seule personne qui nous a dit quelque chose de négatif de notre parcours. Bon, c'est toujours possible que les gens cachent leurs vraies émotions et n'osent pas dire en vive voix à quelqu'un. Mais ce que je pense, c'est la réalité, c'est que les gens ont un avis pour ou surtout contre le GPA en France. Mais ce n'est pas basé sur les vrais cas, ce n'est pas basé sur les vrais faits, comment ça s'est fait. Et je dis ça avec beaucoup de certitude parce que c'était le cas de mon mari. Mon mari était contre le GPA quand on a commencé à en discuter. Et force à être confronté par un vrai cas, comment ça allait se dérouler dans la vraie vie. Et là, changer d'avis.
Et c'est cette histoire que vous racontez donc à quatre mains avec la mère porteuse Aimée Melton, puisque vous signez ensemble ce témoignage lorsqu'on n'a que l'amour qui paraît chez Flammarion. Sarah Lévin, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Vous étiez à la une de la science.
Merci.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le noyau de la Terre aurait son propre noyau. Une équipe de chercheurs chinois et américains est arrivée à cette conclusion en étudiant les vibrations générées lors des grands séismes. La graine, la partie la plus interne de notre planète, serait divisée en deux régions distinctes, une externe et une interne, aux caractéristiques géologiques différentes. Si cette information est validée, il faudra modifier rapidement les manuels scolaires. 50 voyages autour de notre Soleil, résumé en 5 minutes seulement, un satellite lancé par la NASA a capturé plus de 200 millions d'images de notre étoile, regroupée dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. On peut notamment y voir de façon très détaillée des explosions en surface du Soleil qui sont très impressionnantes. Et puis 2500 coups de langue pour terminer une sucette. Des chercheurs de l'Université de New York ont étudié la vitesse de la disparition d'une sucette dans de l'eau en mouvement. Ils ont observé que les sucettes évoluent vers des formes similaires avec un arrière plat et un avant bombé. Ces résultats ne sont pas si futiles qu'ils en ont l'air puisqu'ils seraient utiles pour des applications sur la dissolution de matériaux pour les industries chimiques et pharmaceutiques.